à tous, deuxième jour de la semaine, toujours à la rencontre des artistes. À 13h50, François Sureau s'arrêtera près de la place du Panthéon, devant l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour rendre hommage à Blaise Pascal. Mais avant cela, nous allons parler des prisons. Pour la première fois depuis des années, pendant le confinement, le taux d'occupation des prisons est descendu en dessous de 100%, du jamais vu. C'est donc de ce lieu dont nous allons parler aujourd'hui. La prison de Guingamp est devenue le centre d'art Gwynzegal, qui accueille jusqu'au 6 septembre l'exposition « Le Grand Ordonnateur » et autres nouvelles des prisons de Maxence Riflet. Des photos qui donnent à voir la prison comme lieu de répression, certes, mais aussi comme un lieu de vie, celui que supportent les détenus pendant leur séjour. Un univers de contraintes et de cadres, comme la photographie elle-même, qui doit ici trouver de nouvelles formes pour raconter, faire émerger l'espace et le corps entravé. C'est donc de ceci dont nous allons parler aujourd'hui jusqu'à 14h, en compagnie du photographe Maxence Riflet et de la présidente de l'Observatoire international des prisons, Delphine Boezel.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Maxence Riflet, quelques mots sur ce projet, Le Grand Ordonnateur et autres nouvelles des prisons. Alors, il y a une dimension un peu mystique et aussi presque l'idée d'une fiction avec les nouvelles. On se demande d'où vient ce titre étrange.
Alors ce titre, il provient de l'idée que les prisons sont organisées par, d'une part, le pouvoir politique, qu'il y a des architectes qui les dessinent, qui organisent l'espace, et une administration pénitentiaire qui organise la vie de manière générale, qui donne des objets, par exemple, quand le prisonnier arrive dans sa cellule. C'est le pactage arrivant, où on a un certain nombre d'objets comme ça nécessaires à la vie, qui prescrivent aussi... ce que doit être la vie du prisonnier quand il arrive dans sa cellule, dormir, manger, laver la cellule, se laver.
Ce que vous avez représenté, hein, d'ailleurs, dans cette grande table, dans le lieu d'exposition, il y a les fourchettes, il y a un certain nombre d'objets.
Voilà, c'est ça. C'est des objets
carcéral.
Tout à fait ordinaires, en fait, qui sont vraiment les objets de la vie quotidienne des prisonniers. Alors. Voilà, j'explique dans un texte que j'ai préféré photographier ça que, par exemple, les objets bricolés par les prisonniers pour souvent surmonter des conditions de vie assez difficiles, par exemple les yo-yo ou des choses comme ça, ou des pour me concentrer sur voilà les objets ordinaires qui sont aussi qui révèlent aussi un fonctionnement institutionnel. C'est ce fonctionnement institutionnel qui m'a intéressé. Alors le grand ordonnateur, voilà, c'est tout ça. C'est pas une figure en particulier, mais disons que c'est une instance qui organise cette vie et qui renvoie aussi à l'espace d'exposition lui-même, puisque le centre d'art étant une ancienne prison, il se trouve que la salle d'exposition dans laquelle j'expose est une sorte de boîte qui a été posée dans une cour de promenade entre les murs et qui m'a semblé être un geste assez curieux comme ça, de venir poser cette boîte à l'intérieur de cette cour avec des grandes fenêtres qui peuvent éventuellement s'ouvrir ou se fermer, mais qui donnent sur des murs. J'ai trouvé ce geste...
Mais une sorte de mise en abîme, comme ça, de l'exposition, le lieu ayant du sens lui-même.
Voilà, exactement. Et donc, c'est effectivement, ayant travaillé sur l'espace des prisons, il fallait aussi, toute exposition est un espace. Au corps... des prisonniers dans l'espace de la prison et représenté dans les images correspond aussi notre corps dans l'espace d'exposition face à des œuvres, face à des objets, face à ces murs. Et pour moi, cette boîte renvoyait aussi à une image que j'ai montrée dans l'exposition, qui est ce portrait de Robert Badinter tenant entre ses mains une maquette d'un des pavillons du centre de détention de Mozac en Dordogne, dont il avait voulu la réalisation dans les années 80, et qui est une prison très très particulière. Et donc voilà, il y avait cette idée que le ce rapport d'échelle entre
lui
cette
et maquette sa maquette.
Et
c'est la photo la plus grande, hein, c'est une photo immense, la photo de Robert Badinter.
Elle est pas immense, mais
en tout cas, il a l'air immense.
Elle fait 1m50, donc c'est.
À côté
en tout cas, il est dans un rapport d'échelle un peu excessif.
Alors que d'autres prisonniers, notamment les femmes de la maison d'arrêt de Rouen, on a le sentiment qu'elles mesurent elles-mêmes, et d'ailleurs il y a plutôt plusieurs photos de ce genre-là, mesurent elles-mêmes la taille de leurs cellules avec leur corps. Alors Delphine Boisel, ça renvoie évidemment à une question récurrente des prisons, qui est la taille des cellules, le nombre d'occupants, un problème ancien en France, et qui a trouvé une sorte d'écho différent pendant le confinement, puisque les prisons se sont un peu vidées, que le taux d'occupation en a été changé.
Alors oui, il faut faire attention tout de même quand on parle de ce taux d'occupation qui a été considérablement diminué, c'est vrai, hein, puisqu'il y a eu 13 000 détenus en moins. Donc pas forcément des libérations, il y a eu des libérations automatiques, enfin pardon, pas automatiques, mais en fin de peine, et surtout des personnes qui ne sont pas rentrées en détention, puisqu'il y avait une baisse de l'activité des tribunaux pendant cette période de confinement. Mais quand je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a aussi des différences entre les établissements pénitentiaires. Dans votre exposition, de ce que j'ai pu en voir sur les photos, vous avez pris des photos dans des maisons centrales et des centres de détention.
Donc il y en a sept, hein, il y a sept lieux différents représentés dans l'exposition.
Et des maisons d'arrêt. Et c'est dans les maisons d'arrêt qu'on connaissait une surpopulation qui n'avait jamais été résolue et qui ne l'est pas encore. Hein. On a eu des diminutions de la suroccupation dans les maisons d'arrêt, mais vous aviez encore des maisons d'arrêt, notamment en région parisienne, qui se retrouvaient surpeuplées à 110%, alors au lieu des 200 ou des 140 avant confinement. Donc voilà, c'est effectivement une question récurrente. En revanche, ce que nous a démontré la période de confinement et les mesures qui ont été prises par le gouvernement et en amont également déjà un peu avant les ordonnances du mois de mars 2020 prononcées, enfin qui avaient été rédigées par le gouvernement, par des juges de l'application des peines, des procureurs, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui avant même les ordonnances du 25 mars avaient commencé à réfléchir et à octroyer des remises de peine, octroyer des aménagements de peine. Donc tout le monde a pris conscience et on se rend compte en fait que c'est possible.
Alors oui, c'est ça, c'était la question posée en ce début. Pour revenir à cette question de la photographie, on se demande comment la photo et l'appareil photo peut lui-même redonner de l'espace. Hein. On sent qu'il y a un travail fait sur les points de vue. Je pense notamment à ce centre de détention de Caen avec l'idée de la machine optique. Il y a à la fois le point de vue qui est ce que voit le prisonnier, le détenu, et puis de l'autre, ce que peut voir le surveillant. Donc c'est comme s'il y avait comme ça des regards croisés et auxquels l'appareil photo donne, je dirais, une forme de nouvelle place aussi, puisque à travers ce que l'on découvre dans les photos, on se rend compte à quel point le monde peut devenir si petit pour celui qui regarde.
Oui, bon, c'est la question de photographier en prison m'a en fait posé problème dès le début, c'est-à-dire que
c'est né d'atelier au départ.
Alors c'est né d'atelier que j'ai organisé à la suite d'une première sollicitation à faire un atelier qui n'a pas eu lieu à la maison d'arrêt de Strasbourg, mais qui disons m'a mis comme ça au travail sur cette question, et puis d'un étonnement pour l'architecture que je découvrais, et aussi d'un étonnement, d'une question documentaire, qui était la question de savoir comment se fait-il que les représentations photographiques des prisons soient si homogènes, disons, si semblables en général, alors que justement les réalités carcérales sont extrêmement différentes. Alors effectivement, ne serait-ce que
entre
administrativement, voilà,
de détention.
Il y a des catégories de types de prison. Bon,
il y a les hommes et les femmes aussi. Hein,
il y a les hommes et les femmes. Mais il y a aussi, à l'intérieur de ces catégories de prison, des architectures qui sont des expériences spatiales totalement différentes. Je veux dire, on vit pas la même expérience d'incarcération à la maison d'arrêt de Cherbourg, pour parler d'endroits où je suis allé, où il s'agit de dortoirs de 6 ou 9 personnes, ou au centre de détention de Mozac, où c'est des pavillons de 12 places avec un jardin devant le pavillon où on peut circuler librement, etc. Ou encore à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, qui est la centrale la plus sécuritaire de France. Enfin, en tout cas, pour revenir à votre question, j'avais à la fois ce point de départ, cette enquête documentaire là, d'essayer de montrer non pas la prison en général, mais des prisons et des architectures, essayer de commencer à tracer un peu une sorte de petite histoire de l'architecture carcérale.
D'autant plus qu'on a des images en tête, hein, le panoptique, des images circulaires. Vous jouez aussi de ça.
Oui, alors, un des points de départ, c'est aussi de me rendre compte que ce modèle du panoptique, aussi intéressant soit-il pour penser la société de surveillance, permettait assez mal, au fond, de rendre compte de ce qui est en jeu dans l'architecture carcérale. Et qu'au fond, d'ailleurs, aucune prison française n'est, à proprement parler, panoptique. Puisque le panoptique, il s'agit d'un surveillant au centre d'un édifice qui vise l'intérieur des cellules, qui n'ont même pas de portes, hein, qui sont des grilles. Donc, avec cette idée que le prisonnier dans sa cellule, se sachant possiblement surveillé, non seulement se tiendra à carreau, mais aussi travaillera, parce que c'était aussi l'idée que ce soit des lieux de pénitence et de travail. En tout cas, ce qu'on appelle en France des prisons panoptiques...
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, mais ce qu'on appelle des prisons panoptiques, c'est une architecture rayonnante dont le plan peut ressembler comme ça de loin, puisqu'effectivement, il y a un point de contrôle central, mais qui donne sur des couloirs. Et en fait, c'est une architecture de circulation. C'est-à-dire que et celui qui est surveillé, c'est-à-dire plutôt le surveillant, qui est à la porte de la... à la porte de la cellule.
Alors, il y a cette idée à travers l'idée de panoptique qu'on prend et cet imaginaire. Vous retravaillez cet imaginaire à travers l'idée de circularité. On retrouve notamment dans une photo qui s'appelle Un mouvement perpétuel, qui a été prise dans la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Cette photo d'un homme qui tourne en rond, comme ça. Alors, ce que l'on découvre, c'est à la fois, alors, la vieille image du prisonnier qui tourne pendant la promenade, ça, c'est une image ancienne, mais on trouve ce corps qui trouve des libertés dans cet espace minuscule, qui va basculer en arrière, qui va se pencher, qui va trouver une sorte de liberté dans ses contraintes.
Oui.
Maxence Riflet.
Effectivement, une des questions, c'était l'analogie entre cadré et enfermé. Bon, quand on photographie en prison, mais quand on photographie n'importe où, en fait, c'est un problème. C'est-à-dire que...
Ne pas en rajouter par la photo, c'est ça que vous
voilà,
voulez dire?
Mais même dans le monde libre, je veux dire, la photographie peut être une mise en boîte absolument insupportable. Et donc, comment... En prison, ce problème devient particulièrement criant, j'ai envie de dire. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'une part de mettre en partage ces questions avec des prisonniers, mais aussi que l'activité photographique ne soit plus seulement du côté du constat de l'enfermement, mais qu'elle soit... à la fois une activité de pensée, une activité artistique, et du coup aussi que ça produise des gestes qui puissent être une manière de répondre à l'espace, de dialoguer avec l'espace.
Et d'en déjouer les mécaniques, puisque c'est ce que l'on remarque dans la photographie. Sur cette question de l'architecture, Delphine Boisel, il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu aussi l'arrivée de ces nouvelles prisons électroniques avec des caméras de surveillance. Qu'est-ce que l'on peut dire justement de ces nouvelles prisons qui sont finalement assez décriées par les détenus?
Elles sont effectivement, et pour revenir sur la question de l'espace, on a vu des nouveaux établissements, donc très avec fort potentiel technologique, mais également aussi très grands, avec tout ce que
c'est
ça implique.
C'est un peu des usines.
C'est ça. Et en fait, alors décriées par les personnes détenues, parce que parfois, lorsque elles avaient connu des maisons d'arrêt aussi, où finalement la vie circulait par le contact avec les autres personnes détenues, avec les surveillants, et ces établissements très hygiéniques et très... alors, bien sûr, avec des conditions matérielles, la douche dans la cellule, avec ce que ça implique aussi de propreté par rapport à des établissements extrêmement vétustes. Et pour autant, au début, quand il y avait des transferts de ces vieilles maisons d'arrêt où il y avait pour autant un contact perpétuel et constant avec le surveillant qui ouvrait la porte, eh bien, une sorte de déstabilisation d'arriver dans un univers très froid, très hygiénique, où là, tout était ouvert par la...
Enfin, où, et très cas, déshumanisé
très,
au final.
Très déshumanisant, et on peut arriver dans certains établissements, même nous, intervenants extérieurs, avocats ou autres, à longer des longs couloirs de plusieurs vingtaines de mètres sans ne croiser personne, et être ausculté finalement par les caméras à l'entrée qui ouvrent la porte et qui... Voilà, donc c'est effectivement aussi quelque chose d'extrêmement déstabilisant.
De désocialisant. Et, pour les détenus,
et peut-être. D'incompréhension aussi après le fait de ne plus côtoyer quotidiennement ou en tous les cas que dans des moments restreints le personnel pénitentiaire, et bien de ne plus se connaître les uns les autres avec ce que cela peut aussi engendrer en termes de ne plus communiquer, de ne plus se connaître et d'avoir après des pressions, enfin de moments de voilà le fait de ne plus communiquer, de ne plus se connaître, entraînant après des moments de tension à l'intérieur de la détention.
Alors à ce propos, je vous propose d'écouter un extrait de la série documentaire sur France Culture, Architecture et Utopie des cinémas à une prison. C'était le 27 décembre 2017 au micro de Camille Jusa.
C'est à la limite, j'ai envie de dire, le décor, on s'en fout. Le truc principal, c'est la question de l'enfermement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'enfermement ? Deux mètres, deux personnes, trois personnes, quatre personnes dans 9 mètres carrés, où on est complètement déresponsabilisé, infantilisé, réduit à un mouton qu'on traîne, puisqu'on n'a strictement aucune initiative, et bien évidemment encore moins celle d'ouvrir la porte. Comme j'étais à Perrache, il y a eu le déménagement dans les fameuses nouvelles prisons à Corba et on a été déménagé, enchaîné deux par deux avec 250 000 flics, trois hélicoptères, enfin tout le cinéma qu'ils font parce qu'effectivement...
Vous avez connu le déménagement d'une très très vieille et vétuste prison à une prison toute neuve.
Voilà, exactement. On a quitté une maison pourrie pour arriver dans une maison pourrie. Ah ben on était tous contents, on s'est dit enfin on va quitter l'insalubrité, on va retrouver un truc vachement bien, en plus on aura la douche dans la cellule, au lieu que ça soit trois fois par semaine, ça sera quand on voudra. Et après deux jours de corban, on voulait tous repartir à Perrache.
Malgré les rats, malgré la petite
fenêtre. Ah oui, on préférait les rats à l'inhumanité de ces nouvelles prisons, bien sûr.
Pourquoi c'est inhumain ?
Bah, c'est inhumain parce que tout est électronique, il y a des caméras partout, les portes s'ouvrent automatiquement. Pas question de discuter avec les copains, parce qu'il y a des caméras partout, il y a des haut-parleurs. Rentrez, tout ça. Voilà.
Quelle influence ça avait justement ces caméras partout aussi sur les relations avec les surveillants ?
C'est pas tellement le fait qu'on soit sensible aux caméras, on s'en fout des caméras. Le problème c'est qu'il y a un maton pour 80 cellules, avant qu'ils étaient 3 pour 30 cellules. Et donc, comme le mec, il joue pleinement son rôle de porte-clés, hein, voilà, il n'a pas le temps d'ouvrir, parce qu'il y a un mec qui demande quelque chose, ou etc. Voilà. C'est l'isolement, et cet isolement est renforcé, entre guillemets, justement, par le fait que un mec pour 80 cellules, même s'il est Superman, il tient pas la route, quoi. C'est pas possible.
On retrouve Maxence Riflet, toujours cette tension autour des discussions sur les prisons, entre d'un côté la promiscuité, l'espace restreint, et de l'autre l'isolement entre les êtres, entre les espaces collectifs. Vous travaillez cette question-là, l'espace individuel de la cellule, ou à plusieurs, mais aussi l'espace collectif qui apparaît comme un lieu désertique quand on voit la photo que vous avez choisi d'en faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de la manière dont vous avez essayé de mettre la technique photographique au service de ces questions-là ?
Je ne sais pas exactement à quelle photographie vous faites référence pour l'espace désertique.
Mais... Il y a des endroits où c'est l'architecture qui est prise en photo, que ce soit pour les lieux de culte, oui. Et pour la vision globale.
Oui, oui. Non, mais ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que cette question de l'isolement des prisonniers, là, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce que ça date d'il y a longtemps, cette histoire. C'est vieux comme l'origine de la prison. C'est-à-dire l'idée que, à l'intérieur même des prisons, les détenus ne doivent pas avoir de vie sociale, ils ne doivent pas se rencontrer pour éviter la contagion du crime, en gros. Hein, et ça,
la prison dans la prison, en réalité.
Exactement, exactement. Et ça, on se rend compte dans ces nouvelles prisons que cette question-là n'a pas tellement évolué, en réalité. Hein, et alors que on pourrait se poser la question, non pas seulement de savoir comment les gens vont sortir de la prison, comment ils vont faire pour se réinsérer, mais déjà quelle vie ils vont avoir à l'intérieur de la prison. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment avec le projet du centre de détention de Mozac en Dordogne, qui était voulu par Robert Badinter et son équipe, qui était cette idée. Alors l'architecture a été confié à un architecte qui faisait des clubs de vacances. C'était l'architecte des clubs méditerranéens. Et avec cette idée, en fait, alors ça peut faire sourire, mais au fond, c'était assez sérieux. C'était l'idée d'essayer de faire une prison où tout d'un coup, la vie sociale serait non seulement permise, mais favorisée par l'architecture.
Mais c'est ce qu'on a pu connaître dans d'autres institutions. C'était l'idée de la psychiatrie institutionnelle aussi, des lieux ouverts, oui, où on ne cloisonne plus nécessairement les détenus et les surveillants, comme on ne cloisonne plus nécessairement les soignants des patients dans d'autres espaces.
Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, il se trouve que cette expérimentation, elle a été de, enfin, le centre de détention existe toujours, mais il a pas fait de petit, quoi. C'est-à-dire que après l'alternance politique, on est revenu à des programmes classiques qui correspondent à cette même idée du 19e siècle. Au fond, on a pas tellement bougé.
C'est la punition qui est mise en avant.
Voilà, la punition et l'isolement.
Faut que ce soit une expérience pénible, c'est l'idée qui est sous-tendue par cette architecture justement aussi contraignante que celle qu'on peut connaître.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Delphine Boezel, sur cette question-là, justement de l'architecture et cette idée, finalement, on a l'impression que la surpopulation dans les prisons, ça n'a pas intéressé grand monde, en tout cas dans la classe politique. C'est une question qui est la même depuis des décennies, comme si au fond, il y avait une peine supplémentaire ajoutée à la peine devant le tribunal.
C'est exactement ça, en fait. On fait des constats. Tous les 5 ans, on a des rapports. On aura un ou deux députés ou sénateurs qui vont s'intéresser à la question, qui vont pondre un rapport. Et au final, eh bien, on continuera à poursuivre les politiques pénales et pénitentiaires que nous connaissons depuis un certain nombre d'années.
Pourtant, on a même des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions inhumaines de détention, etc.
Tout à fait,
et un arrêt
et une décision assez récente, hein, du 30 janvier 2020, où effectivement la Cour européenne, là en plus, demande à la France de prendre un certain nombre de mesures pour justement enrayer cette surpopulation endémique et qui on avait l'impression que rien ne pourrait finalement l'arrêter. Alors on a eu après cette période de liée au Covid qui a permis un certain nombre de soit de non-entrée soit de sortie anticipée. Et on a l'impression là que on reprend un petit peu le petit bonhomme de chemin, puisque nous n'avons pas encore les chiffres hein, publiés maintenant tous les 3 mois et non plus mensuellement par le ministère de la Justice, les chiffres de la population pénale et le nombre de prisonniers et de prisonnières. Mais
donc on ne sait pas si ça se repeuple à nouveau.
Ça commence à remonter. En tous les cas, les chiffres rien que de la direction interrégionale de Paris montrent une, et tous les praticiens commencent à voir d'un certain nombre de personnes qui reviennent en détention. Donc, on a l'impression, en fait, qu'on n'a pas très bien saisi.
Alors, il faut rappeler, hein, essentiellement pour des séjours courts.
Des séjours courts.
Souvent de moins d'un an.
Exactement. C'est le maximum. Enfin, pardon, c'est le pourcentage le plus important. Alors, on a la loi du mois de mars 2019 qui est entrée en application, ce qu'on a appelé le bloc peine, qui est entrée en application là au mois de mars 2020, Donc on va voir un certain nombre de mesures qui avaient été prises par cette loi et qui avaient été vendues par Nicole Belloubet à l'époque, l'interdiction des peines d'un mois. Bon, mais qui, de toute façon, était assez dérisoire en termes de quantum, puisqu'effectivement, on est sur des à peu près, je crois, 70% de personnes qui purgent des peines de moins d'un an, ce qui est quand même énorme.
Et pour laquelle, justement, dans cette période-là, post-Covid, mais surtout pendant le Covid et pendant le confinement, il y a eu des aménagements de peines possibles ou des personnes qui sont sorties de prison parce qu'elles arrivaient en fin de peine.
Il n'y a pas eu tant d'aménagements de peine que cela. Il y a eu, effectivement, comme vous le dites, des mesures spécifiques pour les personnes à moins de 2 mois de la fin de leur peine qui ont pu être remises en liberté parce qu'elles pouvaient justifier d'un hébergement. Donc ça a aussi prive un certain nombre de personnes qui, elles, ne pouvaient pas justifier d'un hébergement et qui ont donc continué à être, de purger leur peine. Des aménagements de peine pour des personnes à moins de 6 mois, oui, alors qui étaient facilités, mais là encore, il fallait pouvoir justifier d'un hébergement. N'oublions pas qu'un certain nombre aussi de personnes qui sont condamnées à des courtes peines de prison sont des personnes très précarisées, donc qui, souvent, et notamment en région parisienne, mais aussi dans d'autres grosses agglomérations, sont des personnes SDF qui de toute façon étaient là en difficulté, puisque par ailleurs des services spécifiques qui auraient pu les accueillir fermaient leurs portes ou étaient en régime altéré ou du fait du confinement. Donc ça génère et ça pose d'autres questions. En revanche, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça montre que quand même c'est possible et qu'il faut se saisir de ce qui a été fait pendant cette période pour pouvoir réfléchir et de se dire que quand même les courtes peines de prison n'ont pas leur place en détention et qu'on peut permettre des alternatives et des aménagements de peine.
D'autant plus que pendant cette période, la délinquance n'a pas augmenté en parallèle.
Ben non, mais la délinquance, elle augmente pas tant que ça, les chiffres qui sont communiqués, et ça fait un certain nombre d'années qu'on constate que la délinquance n'augmente pas, et pour autant on a des mesures de plus en plus répressives, des lois qui sont malgré tout de plus en plus répressives, où on crée des peines de prison, enfin des infractions avec des peines d'emprisonnement. Donc on est aussi dans une surrépression, mais globale finalement, de notre société. Parallèlement, on met en avant les alternatives à l'incarcération et on nous dit mais on va augmenter les aménagements de peine. Je rappellerai que sur ce bloc peine qui avait été voté au mois de mars 2019 et qui est entré en application en mars 2020, on nous a expliqué que pour donner du sens à la peine de prison, eh bien maintenant nous n'aurons plus d'aménagement de peine ab initio. Donc ça veut dire un aménagement de peine ab initio, pardon, je vais être technique, mais ça me paraît essentiel au moment de questionnement autour de la surpopulation. On pouvait obtenir un aménagement de peine ab initio, c'est-à-dire être condamné par le tribunal jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et faire aménager, en tous les cas demander un aménagement de peine, en étant libre au juge de l'application des peines. Cette mesure, elle existait jusqu'à 2 ans pour des personnes qui n'étaient pas condamnées en état de récidive, et jusqu'à 1 an pour des personnes condamnées en état de récidive légale, donc on faisait une distinction. Là, aujourd'hui, c'est pour tout le monde 1 an. Donc, des personnes qui vont être condamnées de 1 an à 2 ans seront et devront passer par la case prison. Ils ne pourront plus faire aménager. Alors, c'était jamais automatique, parce qu'on entendait aussi, mais ils n'iront jamais en prison. Ce n'était pas vrai. Mais il y avait cette possibilité d'aménagement de peine sans passer.
Qui n'existe plus pour l'heure. Maxence Rifflet, ce que l'on voit dans cette exposition, c'est le travail aussi que vous, de dialogue avec les prisonniers, puisque on voit bien que les prisonniers décident aussi de ce qui va être pris en photo d'eux-mêmes et du lieu dans lequel ils sont. Il y a cette photo assez incroyable de cet homme qui court. Je crois que c'est d'ailleurs 3 photos superposées qui donnent ce sentiment de mouvement. Oui, il y a toute une histoire qui va avec cette photo-là.
Oui, tout à fait. Oui, c'était le principe de ce travail. Enfin, le principe, si j'ose dire, mais c'est en tout cas l'idée d'une attention à ce que je vois, mais aussi à ce que j'entends. Enfin, je pense que c'est assez intéressant d'essayer de photographier avec ses oreilles aussi, et pas seulement avec ses yeux. C'est ce qui fait que mon travail a une forme d'hétérogénéité, comme ça, qu'il y a des formes assez différentes. C'est pas un principe d'expérimentation comme ça pour me faire plaisir dans mon atelier. C'est aussi pour essayer de répondre à ce que je rencontre. Alors, dans le cas de l'image dont vous parlez, c'est effectivement Oui, je pense un exemple qui résume assez bien le processus de travail.
Peut-être vous pouvez nous décrire cette photo, hein, un homme avec un bonnet et des baskets qui court.
Voilà, qui court sur un tapis de course. Alors je peux raconter comment l'image est arrivée. On était dans un couloir, on passe devant sa cellule. Et puis il me dit vas-y tu peux rentrer dans la cellule faire des photos, moi de toute façon ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire des photos. De toute façon tu peux photographier ma cellule et puis tu peux me photographier mais je veux pas être photographié dans ma cellule.
Alors la cellule ou lui, mais pas les deux en même temps, c'est ça?
Voilà, exactement. Il y a une dialectique là qui est assez jolie, assez sophistiquée. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui pense quoi, tout d'un coup. Enfin, c'est des paroles auxquelles je m'arrête parce que je trouve que c'est fort et que ça rejoint l'idée. Je me dis quand il me dit ça, il me dit qu'il veut pas être enfermé deux fois par les murs et par les bords du cadre. Donc je trouve que c'est une conscience de ce qu'est l'image qui m'intéresse beaucoup. Je fais un peu des images de sa cellule avec d'ailleurs des choses assez intéressantes dans des aménagements justement pour empêcher certains regards depuis l'œilleton, etc. Bon, c'est des images qui sont pas là mais qui m'intéressent aussi. Et puis le lendemain il vient me voir, il me dit écoute, je sais ce que je voudrais, c'est être photographié sur le tapis de course dans la salle de sport. Et donc moi d'une certaine manière fidèle à mon principe d'essayer de suivre aussi ce qu'on me demande, donc je le fais avec un peu de réticence parce qu'il faut bien dire que c'est aussi un autre stéréotype de la prison, le sport, le corps en bonne santé, etc.
Le corps libre qui bouge aussi.
Voilà. Et finalement, en rentrant chez moi, je me dis, mais en fait, il te dit un truc très très précis, quoi. C'est-à-dire, je veux pas être enfermé, je reste en mouvement. Alors dès lors, on a sous les yeux une reproduction de effectivement ces trois images que j'ai faites, que j'ai superposées pour donner avec des positions de bras et de jambes qui donnent une vibration et un mouvement comme ça.
On a l'impression qu'il a 1000 jambes pour courir.
Voilà, c'est ça. Bon, c'est des expérimentations qui sont liées à des choses assez connues, hein, de la chronophotographie, des choses comme ça. Et puis une fois que j'ai fait ce tirage, il y avait aussi évidemment, compte tenu de ce qu'il m'avait dit, je pouvais difficilement me contenter de faire un beau tirage et de l'encadrer dans un beau cadre. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième étape de travail en atelier qui consiste à essayer de donner une forme à cette image qui devient un objet et d'essayer de transcrire dans l'objet ce mouvement. Voilà. Alors il y a dans l'exposition. Donc l'image est collée sur une plaque d'aluminium qui est elle-même collée sur un bloc de bois peint en blanc et avec une sorte de décalage comme ça qui fait glisser, disons, les différents éléments les uns par rapport aux autres.
De manière un peu dynamique aussi.
Voilà, une dynamique et aussi quelque chose qui en tout cas interroge la fermeture du cadre, quoi.
En tout cas, il est en majesté sur cette photo dans la mesure où on voit une silhouette robuste, on le voit en pleine activité. C'est l'image inverse de l'image d'Épinal du prisonnier qui ne fait rien, qui s'ennuie toute la journée. Là, il y a une image très très corporelle, très tonique.
Oui, tout à fait. Et c'est aussi des moments comme ça qui m'ont intéressé, c'est-à-dire justement des moments où la photographie n'est plus seulement constat d'enfermement, mais devient aussi participe d'une action, participe d'une liberté sur l'espace, aussi d'une prise en compte des individus comme sujet.
Incarné.
Voilà.
France Culture, la grande table d'été. Par Maëlys Bessery.
Et en carte blanche aujourd'hui, vous avez choisi Télévision et prison, un film d'Alain Moreau dont on va écouter des extraits.
J'ai choisi cet extrait parce que c'est une petite jeune fille qui sort du mitard, qui est une petite blondinette qui fait très fragile. Si vous voulez, tous les appels à la pitié, à la compassion, à tout ce qui peut appeler l'affectif chez les uns et les autres, c'est sorti, je crois, dans l'émission là tous les jeudis soirs. C'est quoi ? comment que ça s'appelle ? Envoyé spécial. Donc tout appelle à l'affectif, tout appelle à la pitié, tout appelle à quelque chose que je trouve un petit peu, entre guillemets, dégueulasse. Sa tentative de suicide, sa lettre avec tout le contenu de ses parents qui se barrent quelque part à Naples alors qu'elle est là. Je crois qu'on a pris, si vous voulez, toutes les ficelles pour créer une forme de pitié, pour créer une forme d'atermoiement, d'apitoiement. Voilà à peu près, grosso modo, pourquoi j'ai choisi cette scène.
D'accord.
Aziz va intervenir.
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur cette séquence. Et c'est un thème récurrent qu'on voit dans ces films documentaires. C'est souvent, c'est la place. Il y a une bonne place du spectateur, il y a une mauvaise place pour un cas précis, c'est celui détenu. Souvent, ces films sont présentés sous forme de portraits d'une ou deux personnes, en gros plan. Cela veut dire qu'un moindre détail fait sens. On voit très bien que la place de la caméra elle se trouve du côté du pouvoir. Un petit détail. On voit très bien que la caméra est en face de la fille au mitard. Et quand elle sort le mitard, la caméra change de position, elle se trouve derrière la fille. Et en prison, le détenu est obligé de marcher toujours du surveillant. Donc la caméra reprend la place du pouvoir. Il y a toujours une bonne place et une mauvaise place. Voilà ce que j'ai à dire.
Maxence Riffley, on reprend l'idée du grand ordonnateur d'une certaine manière. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cet extrait du film Télévision et Prison ? Peut-être quelques mots du concept même du film ?
Oui.
D'Alain Moreau ?
Oui, alors déjà parce que c'est un film que j'ai vu en 2001.
C'est un film de 97.
De 97, que j'ai vu en 2001 et qui a été très important pour moi. Alors c'est Alain Moreau, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'ateliers de cinéma en prison. Et en 97, il organise cet événement dont on vient d'entendre un extrait, qui est une chose assez incroyable, qui a eu lieu à la Vidéothèque de Paris, qui est l'actuel Forum des Images, donc en mars 97. Et l'idée est la suivante, c'est une rencontre à travers un duplex télévisuel dans l'auditorium de la Vidéothèque de Paris entre des prisonniers qui sont à la maison d'arrêt de la Santé et des intellectuels, Marie-Josée Monzin, Jean-Louis Comolli, Jean-Michel Frodon, etc., et un public dans la salle qui dialogue à travers ce dispositif de duplex. Et l'idée, c'est les prisonniers ont préparé des prises de parole sur, d'une part, donc les intervenants sont les détenus qu'on voit, que le public peut voir à l'écran. Ils ont préparé des prises de parole, d'une part, sur la prison. Regarde la télévision, qu'est-ce que c'est que cette présence de l'objet télévisuel là dans les cellules, qu'est-ce que ça a à voir avec le temps, comment ça influe sur l'expérience du temps carcéral.
Alors, le temps et le dehors.
Voilà, et le rapport avec le dehors, etc. Cette fenêtre ouverte sur le monde, mais qui en même temps... Enfin, bon, il y a plein de discours extrêmement intéressants, c'est un film de 3 heures, donc là c'est un tout petit extrait que j'ai choisi, mais... Et ensuite, une deuxième partie, la télévision regarde la prison et ils analysent des morceaux de films documentaires sur la prison. Alors là, l'extrait dont qu'on vient d'entendre concerne une séquence d'un film de Jean-Michel Carré qui s'appelle
Femme de Fleury.
Voilà, et donc... Et bon, moi, je trouve cet exemple est assez fort, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont un avis quand même très 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 précis. Et ils font des lectures d'images quand même assez sans pitié, je dirais, de séquences de films documentaires qui sont bon. Voilà, Jean-Michel Carré, c'est quand même un documentariste respectable aussi. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant.
Par ailleurs, on parle de pitié dégueulasse.
Voilà, bon, ils y vont fort, mais c'est un des films qui m'a fait dire que
bon, d'une part qu'il fallait faire attention, et puis aussi que qu'il y avait des choses à entendre, aussi du point de vue de l'image,
de la représentation aussi,
de la représentation, et qu'au fond, ben, le premier public de mes images, ce serait eux, et que qu'il fallait aussi que je me confronte à ça.
Est-ce que vous êtes confronté à ça? Est-ce que Maxence Riflet, il y a eu un moment particulier de partage, de où ils ont regardé les photos que vous aviez prises dans chacun des lieux, où ils ont fait un retour, les détenus, sur ce qu'ils avaient pu voir de vos photographies?
Oui, bien sûr, parce que je suis pas allé juste une fois comme ça faire des photographies. Souvent, j'y suis retourné 3-4 fois, avec un espace de temps de 3 semaines, 1 mois. Et donc, je revenais avec les images, on en discutait. J'ai même, dans certaines prisons, installé des laboratoires pour faire du tirage avec les prisonniers. Alors, c'est pas forcément l'idée de les occuper, c'était plutôt l'idée que le laboratoire, c'est un espace de parole. C'est-à-dire que c'est un temps où on passe du temps à regarder des images de manière un peu moins abstraite que si on se met autour d'une table et qu'on dit « Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette photo ?» etc. Là, tout d'un coup, on se dit « Bah tiens, quelle image on va tirer ?» Et cette question concrète de savoir quelle image on va tirer, ben ça amène forcément des conversations. Donc, évidemment, toutes les images que je montre, on s'est mis d'accord en fait avec les gens avec qui j'ai travaillé.
Alors Delphine Boisel, on entend dans cet extrait qui parle de prison de femmes. La prison est un des seuls lieux qui sépare encore les hommes et des femmes et où beaucoup de questions se posent, dont celle du régime fermé. Ça n'a pas forcément été toujours la règle, la question du régime fermé. D'ailleurs, au départ, les lois d'encellulement individuel qui ont été proclamées en 1975, c'était une des possibilités. Il n'était pas question que toutes les prisons soient des lieux entièrement clos. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui a été décidé sur ce fonctionnement des prisons? C'est d'ailleurs pas la même chose dans certains pays du Nord, par exemple.
Oui, et là encore, on doit faire des distinctions. Alors, en tous les cas, aujourd'hui, entre un certain nombre types d'établissements, tels qu'on l'évoquait tout à l'heure, selon que vous êtes en maison d'arrêt ou en centre de détention ou maison centrale, puisque vous évoquiez tout à l'heure une maison d'arrêt où on pouvait avoir des dortoirs de plusieurs personnes. Aujourd'hui, on a des cellules, alors où normalement, l'encellulement individuel...
Et la règle est censée être la règle.
Elle est la règle en centre de détention et en maison centrale, donc s'adressant à des personnes qui ont été condamnées par la justice et condamnées à des peines un peu longues, tandis qu'en maison d'arrêt, on a les personnes qui sont en détention provisoire, donc présumées innocentes et en tous les cas pas encore jugées, ou des très courtes peines de prison, ou alors des personnes condamnées mais en attente de partir dans un établissement où il y a actuellement l'encellulement individuel. Et où là, on a en maison d'arrêt, et notamment dans ces établissements très souvent surpeuplés, et vraiment très surpeuplés, eh bien 2, 3, 4 personnes dans une cellule qui devait normalement n'accueillir qu'une seule, avec des matelas au sol, et des matelas eh bien qu'on va ranger durant le temps de la journée sous les lits superposés, et donc la personne qui n'aura plus possession de son lit. Donc voilà, c'est un peu donc c'est difficile de répondre en fait à votre question, puisque on a ces types d'établissements différents avec des régimes de détention différents, et aussi alors le centre de détention de Mozac, où j'imagine que là c'est quand même quelque chose de plus libre. Moi je la connais pas, hein, je n'y suis jamais allée.
On va parler de Mozac.
Vous avez aussi des centres de détention où des personnes, selon les régimes différenciés, donc là encore, donc sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, qui décidera si telle ou telle personne a mérité, je mets mérité entre guillemets, puisque ça fait partie aussi d'une étape des processus de bâtons et de carottes. Selon que vous vous êtes bien comporté, eh bien vous aurez le droit à un régime de semi-responsabilité. Votre porte de cellule sera ouverte la moitié de la journée, ou alors un régime de totale responsabilité.
À la discrétion de qui?
De l'administration pénitentiaire, selon le comportement que vous aurez.
Donc ils deviennent juges eux-mêmes aussi des conditions.
Du régime de détention, tout à fait. Et là, vous pouvez avoir des centres de détention avec donc un régime de totale responsabilité, où là, la porte de la cellule est ouverte toute la journée et vous pouvez passer de cellule en cellule. Et au moindre incident disciplinaire, eh bien, on vous retirera ce régime préférentiel pour vous réintégrer dans un régime, voilà. Donc ça, c'est aussi donc de l'infradisciplinaire, C'est un peu
et on voit les risques de débordement de part et d'autre, en tout cas d'un pouvoir qui est distribué à cette occasion-là. Est-ce qu'on peut dire, Delphine Boezel, que la situation des hommes et des femmes est la même?
Non. Alors,
parce qu'il y a très peu de femmes en prison.
Il y a
3% de la population 3-4% carcérale.
Ça n'évolue pas énormément.
Ce sont des femmes.
Ouais. Sont des femmes. Non, les femmes sont véritablement... Du fait qu'elles sont sous-représentées, eh bien, elles sont véritablement victimes de discrimination, puisqu'il y a peu d'établissements consacrés aux femmes. Et lorsqu'il y a des établissements, par exemple en termes de centres de détention, vous en avez, mais ils sont éparpillés vraiment un peu partout en France, et donc avec la difficulté pour le maintien des liens familiaux quand elles sont envoyées à l'autre bout de la France ou à 200 ou 300 kilomètres du lieu d'habitation de leurs proches.
Donc le fait d'être moins nombreuses ou encore en leur défaveur.
Bien sûr, oui, puisqu'il y a moins d'établissements pénitentiaires. Et attention, hein, n'entendez pas ça en disant qu'il faut construire des places de prison pour les femmes. Mais oui, et sinon, elles sont détenues dans des établissements, en fait, avec les hommes. Alors, bien séparés, hein, mais c'est des établissements pour hommes dans lesquels on aura mis un quartier pour les femmes. Et là encore, discriminées parce que, eh bien, pour qu'elles ne croisent pas les hommes... Même si, pour qu'elles ne croisent pas les hommes, eh bien, on va souvent leur interdire telle ou telle activité à tel moment de la journée parce que le lieu d'activité sera réservé aux hommes qui sont beaucoup plus nombreux.
Et pas l'inverse,
oui. Pas l'inverse.
Une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence.
Et après le débat, comme dit Casanova. Sans les sourcils, vous diriez, ça a été.
Car vous n'auriez qu'un mot à dire, dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurai mon parapluie, qui sait.
France Culture, à la grande table d'été, par Maëlys Besserie.
Ce que nous avons voulu faire, c'est à partir d'une constatation. Les hommes qui vont venir ici vont rester de 1 an à 3, 4, peut-être 5 années. Puis après, ils sortent. Il faut absolument éviter, dans l'intérêt de tous, qu'ils soient, comment dirais-je, infantilisés, déresponsabilisés, incapables d'initiative personnelle, bref, incapables d'affronter ce qu'est la réalité de la société des hommes libres.
Ici, on demande souvent chauffeur tracteur ou ceux qui se connaissent en agriculture pour aller dans le potager. Puis ceux qui veulent apprendre aussi. Et puis, le gars, il sort, il se sent plus libre, quoi. Il n'y a pas toujours un surveillant derrière, comme en maison d'arrêt, quoi.
C'est bien parce que ça nous enlève, on sort du contexte de la détention, qu'on n'est plus du tout en détention, là. Enfin, la journée, quoi. La nuit, on s'y retrouve, mais c'est les conditions de vie sont complètement différentes qu'en maison d'arrêt, comme on disait. Ouais, c'est pas pareil. On ressent beaucoup moins la prison, là. Alors, tout est basé sur la confiance.
Nous avons des locaux pour tous nos matériels d'entretien, des bureaux à l'extérieur. Nous avons une salle de formation professionnelle aussi, car il nous faut des tenues spécialisées en agriculture et nous leur apportons nous-mêmes une certaine qualification avec l'intermédiaire des professeurs du CFPPA de Périgueux. Et puis toute notre production est ensuite revendue soit à l'établissement, soit à des entreprises privées. Et nous sommes soumis, comme les entreprises, à un compte de gestion.
J'étais à Orléans, moi, maison d'arrêt Orléans. Ah bah c'est pas pareil. Hein. Parce qu'ici on est plus libre. Parce qu'on est plus libre parce qu'on est dehors. Là. Tandis qu'en maison d'arrêt, on est enfermé. Hein.
On entendait successivement Robert Badinter dans le journal d'Antenne 2 du 28 janvier 86, puis des extraits du documentaire Les Clés de Mozac sur Mozac, qui fait l'objet aussi de photographies dans cette exposition. Maxence Riflet, parlez-nous d'abord de cette initiative de Robert Badinter. Vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure. La maquette entre les mains du grand Robert, c'est la légende de la photo.
Oui, une légende peut-être un peu... irrévérencieux sans doute, mais alors oui, ce projet de Mozac, on en a déjà dit quelques mots. Donc j'ai déjà dit que c'était l'idée de favoriser la vie sociale dans la prison. Alors là, ce qu'on a entendu dans le deuxième extrait, c'est un petit peu autre chose. Il s'agit d'une ferme école qui est accolée au centre de détention, qui n'est pas à l'intérieur du centre de détention et qui, en fait, il se trouve qu'à Mozac, il y a deux centres. Il y a ce qu'ils appellent un nouveau centre et un ancien centre. Et cette initiative de la ferme école, donc qui est pas exactement le projet architectural, disons, qui est très spécifique à Mozac. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette organisation spatiale là de pavillons.
On a le sentiment d'une sorte de petit village ouvert.
Voilà. Alors d'ailleurs, l'architecture, comme c'était le cas souvent pour les centres de vacances, les clubs méditerranéens, s'inspirait de l'architecture locale, de ce qu'il y avait autour. Alors d'ailleurs, c'est assez curieux parce que bon, c'est une vraie prison, hein, c'est pas une prison ouverte. Il y a une enceinte, mais qui est seulement un grillage, si bien que quand on passe à côté, on voit les maisons de l'extérieur. Et ça, c'est assez curieux, et on peut voir d'ailleurs que ça ressemble un peu à ce qu'il y a autour quand on s'est promené un peu dans le village.
Et eux voient en retour les détenus.
Voilà,
ce
ils peuvent voir. Alors
c'est
pas dans le village, mais en tout cas, ils peuvent voir la vue, effectivement, qui est d'ailleurs assez bucolique. Donc c'est déjà un geste assez fort d'avoir remplacé ce mur d'enceinte par un grillage. Et ensuite, donc ce sont des pavillons de 12 places avec des espaces communs à l'intérieur, une sorte de salon, cuisine commune, salle de jeu, et un petit jardin devant.
Alors peut-être un mot de cette photo. Hein,
voilà, et dans la photographie, là, il y a cet espace qui est dénommé La Place, qui est une place où notamment les prisonniers peuvent jouer aux boules, où ils peuvent circuler en tout cas librement, aller à la bibliothèque, dans des lieux d'activité culturelle, dans un gymnase, etc. Bon. Alors ce qui est assez curieuse que j'ai découvert en faisant ce travail et en allant notamment avec un des architectes de ce projet, Christian de Monchy. On est retourné. Enfin, je l'ai invité à venir avec moi pour notamment discuter avec les prisonniers et essayer de voir. Essayer de réfléchir avec lui et réfléchir ensemble à la manière de représenter cet espace qui nous informe un peu précisément sur ce projet. Et c'était très étonnant parce que un jour un prisonnier dit mais écoutez c'est très bien Mozak mais il y a un petit problème les cellules. Alors Christian de Manchy dit non mais c'est pas des cellules, c'est des chambres. Alors, vous allez voir que
il y a un problème de sémantique dès le départ.
Dans les cellules, il n'y a pas d'interphone pour appeler quand on a un problème de santé, par exemple.
Notamment la nuit.
C'est uniquement dans les espaces communs du pavillon. Et alors ça, c'est un problème parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque et on a dû mettre le feu à la fenêtre pour que le surveillant du Mirador puisse appeler les secours, etc. Et Christian de Monchy lui dit, mais vous savez, au départ, le projet, c'était que les cellules se restent ouvertes la nuit. C'était que le pavillon qui devait être fermé. Et le lendemain, on en parle avec la directrice qui ignorait ça. C'est-à-dire que pour elle, c'était aussi un problème.
C'est pour dire à quel point les logiques architecturales du projet et celles de l'administration ne sont pas les mêmes.
Voilà. Et le projet
un peu concurrentiel.
A été totalement transformé, en fait, après l'ouverture de Mozak. C'était un centre qui était prévu pour des prisonniers en fin de peine, un centre régional. Alors ça, c'est une catégorie de prison, d'ailleurs, qui a disparu, j'ai appris. Il y avait des centres de détention régionaux, c'était assez intéressant parce que c'était l'idée aussi d'une proximité avec les familles. Hein. Donc là, il y a toujours le panneau centre de détention régional quand on va à Mozak, mais c'est plus le cas.
Ça n'existe plus, il n'y a plus de logique régionale.
Après, c'est des différences selon les directions interrégionales. Ils essayent quand même de maintenir le rapprochement familial, mais effectivement, je crois que cette distinction a disparu.
A disparu. Et sur cette question des détenus, on se demande qui était d'une certaine manière sélectionné ou choisi pour aller dans ce centre, puisque si on pense à une égalité des détenus, on se dit que c'est pas la même chose d'être à Mozak ou ailleurs.
Oui, alors ça c'est...
Comment ils étaient choisis?
C'est tout le sujet, c'est que, effectivement, comme c'était rappelé tout à l'heure, l'administration pénitentiaire a effectivement ce pouvoir d'exécuter la peine. Donc je trouve que c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a en tant que citoyen à s'intéresser un peu à la question de savoir comment est organisée la vie en prison. Parce que ça aussi c'est une question politique et on peut pas simplement se contenter de dire il y a une durée de la peine, ça suffit pas, quoi. Il faut aussi se poser la question de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, ce qu'a fait l'administration pénitentiaire tout de suite après l'ouverture de Mozak, c'est qu'elle a spécialisé la prison dans l'accueil de prisonniers qui ont commis des infractions, enfin des crimes à caractère sexuel, qui sont des catégories de prisonniers qui sont en général à part, parce que sinon ils subissent la violence des autres prisonniers. Donc ça c'est voilà. Et donc ce faisant, elle a totalement marginalisé l'expérience. Et maintenant on peut dire oui, ben Mozak ça marche, mais ça marche parce que c'est des détenus qui sont triés sur le volet. Alors oui, ce que j'ai pas dit c'est que c'est aussi une catégorie de prisonniers qui fait peu de problèmes en détention, qui a des problèmes avec les autres, mais qui elle-même se tient plutôt tranquille et qui donc peut avoir des conditions de détention plus favorable.
Voilà. Alors on se demande, Delphine Boezel, alors outre la question de l'égalité, de la question de ces sélections, comment est-ce que des initiatives comme ça n'ont pas pu se répéter, puisque l'exemple de Mozak, c'est aussi que c'est une prison qui a coûté moins cher au final que les autres prisons, c'est en tout cas ce que j'ai lu. Il y a aussi dans des pays scandinaves des formes de prison plus ouvertes qu'en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces comparaisons-là entre les initiatives?
J'aimerais bien avoir une vraie réponse à vous apporter, dans le sens où je ne sais pas pourquoi on n'a jamais voulu développer ce genre d'initiative, si ce n'est ce besoin de répression et ce besoin d'attacher à la peine de prison ce caractère effectivement punitif et de voilà, enfin c'est j'aimerais vous dire que on aurait pu en construire d'autres. Enfin, là, je regardais aussi la photo. Enfin, appeler des chambres des endroits où il y a des barreaux. Alors, je ne sais pas si les barreaux étaient prévus dans le concept initial de l'architecte, comme l'absence d'interphone. Mais enfin, voilà. Je crois que finir sa peine. On a en France une vraie difficulté, même sur le principe, de se dire que l'exécution de peine, sur cette progressivité qui ferait de on est en prison au début et puis on va réussir à préparer la sortie bien avant le jour de la fin de peine ou bien avant les quelques mois avant la fin de peine, on a cette difficulté d'imaginer, de se dire que s'ils sortent avant la fin de leur peine, c'est qu'on leur a fait un cadeau. En n'imaginant pas le fait que la peine de prison, et vous disiez tout à l'heure, de donner du contenu aussi à cette peine de prison et d'être vraiment une préparation à la sortie.
Donc que ce temps soit organisé comme un temps dédié peut-être exactement. À la découverte, à l'apprentissage, à ce que l'on veut.
Alors, on va pas dire que d'une ouverture. N'existe pas, hein, et notamment dans les établissements pour peine, centres de détention ou maisons centrales, on peut avoir des... Enfin, il y a des activités, il y a un certain nombre de choses qui est proposé, mais... c'est terrible de s'imaginer, de préparer la sortie de prison bien en amont. Et cet établissement-là serait finalement, s'il y avait la possibilité d'en avoir plusieurs, serait une vraie démonstration que nous sommes dans la préparation de la sortie.
Mais est-ce que c'est pas l'idée finalement politique que si les prisons sont un peu trop bien aménagées, alors la société ne comprendra peut-être pas pourquoi, justement, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est une question finalement très politique, très polarisée même politiquement.
Oui, c'est une question très politique et c'est là où, enfin, moi, j'en veux en fait à nos responsables politiques de ne pas arriver aussi à être pédagogue et de ne pas arriver à expliquer à leurs électeurs et tout cela que la prison ne peut pas être une fin en soi et que telle qu'elle est conçue là aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Elle n'apporte dans sa conception globale, pas les réponses qu'on en attend, alors qu'au contraire, elle devrait être finalement limitée à un certain nombre de personnes, qu'il y a beaucoup trop de personnes actuellement en prison, mais c'est aussi cette surpénalisation de la société qui fait qu'il faut des réponses pénales au moindre comportement et qu'on dévie vers aussi de la surincarcération et du surenfermement.
Il y a d'autres peines que la peine d'emprisonnement prévue par le code pénal?
Oui, il y a d'autres peines.
Il y a les travaux d'intérêt généraux, il y a tout un tas d'autres possibilités.
Tout à fait, où finalement on se pose la question de savoir s'il fonctionne. On se pose la question, et notamment les juges correctionnels, au moment de prononcer une peine, certains nous disent, eh ben, on ne sait pas trop quel est le contenu d'un travail d'intérêt général. On ne sait pas trop quel est le contenu, ou comment, si on prononce un sursis, alors probatoire aujourd'hui, mais un sursis avec mise à l'épreuve, on ne sait pas trop comment les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation vont travailler. Donc, comme je ne sais pas, eh ben, je préfère prononcer une peine d'emprisonnement ferme. Qui imagine que parce que on ne sait pas comment fonctionne une peine alternative, eh ben on va finalement préférer se reporter vers une peine dont on sait à peu près ce que cela contient, mais pour autant qui est bien moins satisfaisante que les peines alternatives qui existent.
Alors, pour ce qui concerne la place de la photographie, Maxence Riflet, on a le sentiment qu'il y a quand même une dimension, alors bien sûr une dimension documentaire, mais il y a aussi des histoires racontées par ces photos, ce que c'est que de mesurer sa cellule en se tenant justement à l'horizontale entre son lit et le mur, ce que c'est que de se suspendre à des fenêtres ou à des barreaux, la présence ou pas de la couleur. Comment est-ce que vous avez imaginé que la forme pourrait raconter quelque chose de ce lieu? Peut-être qu'il passerait par justement autre chose que ces conversations, ces silences que vous avez pu vivre aussi avec les détenus. Qu'est-ce que la photo pouvait amener de supplémentaire dans sa forme?
Elle peut amener, je dirais, une expérience spatiale déjà, une confrontation à quelque chose qui a un équivalent de l'espace qui est représenté. Et puis, si vous voulez, je crois, ce qui est intéressant, enfin pour moi, dans l'exposition, dans le processus, c'est que j'ai une archive comme ça d'images, et le travail en atelier et en laboratoire est une manière d'essayer, en essayant d'élaborer des œuvres, des formes qui sont proposées au public, c'est une manière de penser ce qu'elles sont, voilà, d'essayer de penser avec les images, et c'est aussi ce que j'essaie de proposer aux regardeurs, c'est d'essayer de, voilà, souvent c'est des images qui ont une dimension énigmatique aussi, au-delà des récits que je peux proposer, qui peuvent être même ambigu parfois, voilà. Et
après, c'est un côté David Lynch, on se dit, tiens, pourquoi un peu de bleu, pourquoi un peu de rouge, comme ça, qui apparaît dans un coin.
Voilà, il y a des gestes parfois qui peuvent même déréaliser un peu les images, je dirais, y compris ces objets très simples là, de la fourchette ou de la gamelle, etc., pour lesquels j'ai utilisé un procédé que j'appelle avec Raoul Lubac la fossilisation, comme ça, qui est une manière de, voilà, à la fois de redonner du relief et de les déréaliser aussi.
Merci beaucoup à tous les deux, Maxence Rifflet et Delphine Boisel. Je rappelle que votre exposition se tient au Centre d'art Gwynzédal de Guingamp jusqu'au 6 septembre, et je vous renvoie aussi à la revue de l'Observatoire international des prisons, Dedans, Dehors. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours.
Nous sommes ici au cul de la place du Panthéon, au kilomètre 252 de notre périple en remontant la Seine, devant l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Et derrière, sur la droite, il y a un hôtel qui est devenu en quelque sorte un hôtel littéraire, qui s'appelle l'Hôtel des Grands Hommes, qu'on voit au début de Nadja, qui est photographié au début de Nadja d'André Breton, et qui est là où André Breton, après la Première Guerre mondiale, a accueilli Benjamin Perret, qui venait, si je me souviens bien, de Nantes, je crois, et avec lequel il a inventé ici même, derrière nous, donc, l'écriture automatique, qui a connu une grande fortune en tant que technique littéraire et a été un des points de départ du mouvement surréaliste dans ce qu'il avait d'original dans la littérature, Clair de Terre, Le Revolver à cheveux blancs. Devant nous, il y a cette église Saint-Étienne-du-Mont, commencée sous François Ier, terminée un siècle plus tard, et qui est une des églises les plus belles de Paris, les plus composites, les plus étranges, qui appelle le plus au rêve, une église également très littéraire, comme on va le découvrir en rentrant à l'intérieur. Et c'est aussi une église qui a laissé son nom dans l'histoire du crime, puisque c'est ici qu'un prêtre maboule du nom de Verger a assassiné l'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, sous le Second Empire, à coups de couteau, en criant « Abat la déesse » pour protester contre le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Et maintenant, je vous invite à détacher votre regard des taches invisibles, si je puis dire, du sang de l'archevêque, et à rentrer dans l'église pour y découvrir les trésors qu'elle va nous faire partager. Alors nous voilà à l'intérieur de l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est une église très spectaculaire, notamment à cause de son jubé, qui est une sorte de monstrueux escalier de Chambord qui se trouve barré l'espace qui sépare la nef de l'autel. Alors nous allons contourner le jubé pour aller au fond de l'église, où se trouvent deux piliers qui déclenche toujours chez moi une émotion profonde. Les restes de Jean Racine sont inhumés au pied d'un pilier et les restes de Pascal au pied d'un autre pilier. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Leur sépulture originelle était à Port-Royal des Champs, et quand le roi a ordonné l'ouverture et la dispersion des ossements des jansénistes, un certain nombre de personnes qui avaient été liées au jansénisme, Madame Issali en particulier, ont ramené dans cette église les cendres d'un certain nombre de jansénistes célèbres. Parmi ces jansénistes, bien entendu, il y a Blaise Pascal, il y a Jean Racine. Voilà, nous sommes donc ici, entre les deux piliers, où l'on peut lire sur le pilier de gauche, les restes de Jean Racine, mort le 21 avril 1699, ont été rapportés de Port-Royal des Champs, au moment de l'ouverture du cimetière de Port-Royal. Et à droite, le corps de Blaise Pascal, mort le 19 août 1662, sur cette paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, a été inhumé près de ce pilier, avec les trois petites lettres RIP qui signifie « Repose en paix, requiescat in pace ». Pascal, disait Amiel, est l'écrivain, l'un des écrivains préférés des Français, celui qu'il cite tout le temps à cause des pensées ou à cause des provinciales. Et c'est peut-être un écrivain qui est aussi l'un des écrivains les plus méconnus des Français. Pascal est un personnage extraordinaire, qui est un tout entier un être de paradoxe. D'abord, c'est un être de paradoxe parce qu'il était gay. C'est François Mauriac qui fait remarquer que Molière, qui écrivait des comédies, qui voulait instruire le monde au spectacle des vices des puissants, que Molière en réalité pleurait dans la coulisse avant d'y mourir, alors que tous les contemporains ont relevé l'étonnante gaieté de Pascal, un homme qui pourtant avait écrit sur la misère de l'homme sans Dieu, un homme qui en tenait pour la prédestination presque absolue, un homme qui avait une conception extrêmement sévère de la nature et de la grâce, et qui pourtant était d'une gaieté quasi permanente. Le deuxième élément paradoxal de Pascal, et qui est également fascinant, c'est cette volonté de convaincre malgré tout qu'il existe un au-delà du monde, que l'au-delà du monde ne peut être cherché que dans une relation amoureuse avec le Créateur. Et c'est d'autant plus paradoxal que cet homme qui croyait à la prédestination absolue a passé son temps à écrire une apologie, qui a donné les pensées, puisqu'il n'en reste que des fragments, qui était destinée à précisément à convertir des gens dont ils pouvaient penser qu'ils avaient été ou non damnés depuis l'origine. Ce qui est une pensée absolument fascinante. La troisième chose de Pascal, c'est son côté profondément subversif en politique. Pascal, vous savez qu'il a distingué les grandeurs d'établissement des grandeurs naturelles, en recommandant de respecter les grandeurs d'établissement parce que l'ordre social et la paix sociale étaient à ce prix, mais à ne jamais les confondre avec les grandeurs naturelles. Notre temps fait exactement l'inverse. Notre temps déteste les grandeurs d'établissement, voudrait détruire les institutions, mais en même temps ne cesse de vouloir que les postes institutionnels soient occupés par les gens les plus éminents, ceux des grandeurs naturelles. C'est une illusion que Pascal n'avait absolument aucunement. Pascal est tout entier projeté dans un autre monde, dans l'idée d'écarter le voile des apparences, de prendre les institutions pour ce qu'elles sont. Et c'est en cela que Pascal est un esprit profondément subversif. Pascal est mort ici, on le voit sur ce pilier. Il est mort à Saint-Étienne-du-Mont dans des conditions d'ailleurs extrêmement touchantes. Il avait vu sur les marches une jeune fille très belle, paraît-il, et qui mendiait. Il l'a accompagnée chez les prêtres de Saint-Sulpice, qui n'était pourtant pas, si je puis dire, de sa paroisse janséniste. Il l'a accompagnée chez les prêtres de Saint-Sulpice où ils se sont occupés d'elle. Il ne l'a jamais revue. Il écrivait lui-même, d'ailleurs, je n'ai de quoi contenter personne. Je ne puis être la fin de personne, avec cette phrase absolument bouleversante et magnifique, n'ayant en moi que la misère et l'erreur. Et puis ensuite, alors qu'il sortait de la messe à Saint-Étienne-du-Mont, il a vu deux jeunes mendiants en train de mendier. Il était sur ses fins, il allait mourir, il les a installés chez lui et il est allé mourir seul chez sa sœur. D'où vient, disait-il, que j'ai toujours eu un si grand amour des pauvres et que je n'ai jamais rien commencé de faire pour eux. Quand Pascal dit, en parlant de Montaigne, le sot projet que Montaigne a eu de se peindre, on croirait qu'il fait le procès de notre temps, un temps dans lequel, animé par un espèce de narcissisme coupable, nous cessons de vouloir, de ne vouloir la réalisation de nous dans une atmosphère de compétitivité et de soif du bonheur individuel. Pascal était passé absolument au-delà de ses illusions. Et c'est la raison pour laquelle il est l'un des esprits les plus libérateurs qui soit. Et maintenant, en sortant, nous allons sortir de Saint-Étienne-du-Mont. Et nous allons sortir de Saint-Étienne-du-Mont en prenant au choix le bus ou le métro. Et très peu de gens savent que, au fond, le créateur de la RATP, c'est Blaise Pascal. Et c'est par là que je voulais terminer. Blaise Pascal a inventé la régie autonome des transports parisiens avec un mécanisme qu'on appelait les carrosses à cinq sols. Pascal avait constaté que les gens qui circulaient dans Paris allaient toujours d'un endroit à un autre. C'est un mathématicien, il a fait des algorithmes et il a dessiné des lignes. Et sur ces lignes, de lourds carrosses aux armes de la ville de Paris circulaient avec des stations fixes. Et de 10 minutes en 10 minutes, les gens savaient qu'en s'arrêtant à tel endroit, ils pourraient monter dans ce qui allait devenir plus tard un bus et gagner leur lieu de travail. Il s'est associé avec le duc de Roannaise, il a créé les carrosses à 5 sols. Et certaines des lignes qu'il a dessinées à l'époque avec ses algorithmes sont encore aujourd'hui les lignes de certaines lignes de bus parisiens. L'expérience a duré quelques années, a été arrêtée par le Parlement de Paris parce que le Parlement de Paris ne trouvait pas convenable que dans un même carrosse soient mélangés des gens d'origine et de conditions différentes, les bourgeois avec les nobles, les militaires avec les ouvriers, les paysans avec les domestiques, et que tout ceci était absolument insupportable à l'ordre social. Mais je l'ai dit, l'ordre social n'était pas ce que Pascal visait d'abord, puisqu'il visait à la fois une plus grande commodité de la vie courante, et en même temps cette espèce de phénoménal appel d'air de la transcendance qu'il n'avait cessé de vouloir rendre sensible au cœur de ses contemporains.
Et c'est la fin de la Grande Table d'été. On se retrouve demain à 12h45. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Marie Placé. À la technique, Alex Dang. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.